7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
J'ai pensé à toi en voyant la nouvelle ce matin, Steven Brofman, qui veut le terrain du Bas-Saint-Pile pour un éventuel stade au centre-ville et qui là s'inscrit au registre des lobbyistes parce qu'il a besoin de l'aide des gouvernements.
Oui, il dit qu'il n'a pas besoin d'aide, mais qu'il a besoin d'aide, qu'il n'a pas besoin de flux monétaire, mais qu'il a besoin de facilitateurs, tu sais. Mais c'est quoi se faire faciliter la vie? Est-ce que c'est avoir une subvention implicite en ayant le terrain rabais? Est-ce que c'est avoir accès à un terrain dont tu n'aurais jamais accès dans d'autres conditions comme fonds d'investissement? Est-ce que c'est finalement vouloir transférer le terrain à la ville en partie pour la partition du stade, faire bâtir le stade, le transférer aux autorités publiques et finalement que ton fonds soit propriétaire de tout le développement immobilier qui est alentour, tu sais? Pogner l'infrastructure, on pogne la pièce. Non, mais moi, ce que j'haïs tout le temps, Paul, là-dedans, c'est un peu comme quelqu'un qui joue aux cartes. Là, il y a une coupe de cartes dans ses manches. Puis, il te donne des informations. Puis là, au moment où tu penses que t'as un fair deal avec, pouf, straight flush royal dans ta face, t'as perdu la partie. Donc, pourquoi on joue pas franc jeu? Pourquoi on joue pas au franc jeu pis on dit aux Québécois, moi, ce que je dirais à un journaliste aujourd'hui, là, prends la journée, là, regarde le registre foncier qui appartient à Claridge dans ce coin-là. Fais des calculs. Et demande-toi, est-ce qu'il y a une portion là-dedans qui ferait monter systématiquement la valeur du foncier alentour? Donc, en somme, Paul, est-ce qu'on amène un stade avec des expos pour faire prendre le risque à la population et finalement nous profiter alentour d'un développement immobilier et commercial fantasmagorique et faire quintupler l'investissement de la famille et laisser sa trace? C'est quoi qu'on veut? Pourquoi on le dit pas? T'sais, on dit, oh, on parle à mots couverts. Lors de son entrevue avec toi, Paul, j'ai rien compris. C'était des mots, là, mais j'ai dit, c'est quoi?
Ben, c'est-à-dire que c'est un refus de précision, là. C'est-à-dire c'est que ça. Quand on allait sur des questions plus pointues, il voulait pas répondre.
C'était comme du Mélanie Jolie de l'investissement immobilier, là. On parle, mais on veut avoir des mots, tu sais, des clairs. Combien vous avez là-dedans? Combien vous voulez investir? Combien vous attendez? Ah, il est trop tôt pour en parler. Non, il est pas trop tôt pour en parler. Qu'est-ce que tu veux d'avance? On va sauver 7-8 ans de discussion puis de chicane. Si ça a pas d'allure, on va vous le dire tout de suite, tu sais. Voilà.
À suivre.
Oui.
Alors, tu es toujours sur ta lancée de la Saint-Valentin avec trois sujets de couple pour discuter lors du souper de la Saint-Valentin.
C'est important, Paul. Je me suis dit, les gens peut-être manquent de sujets, tu sais. Puis je vais les aider.
C'est vrai qu'au restaurant, on voit des couples qui parlent pas. Alors là, tu as des propositions à leur faire.
Oui. Okay? Rangez votre cellulaire puis parlez des vraies affaires, tu sais. Donc, sujet numéro un. Je vous propose de vous parler, si vous êtes en couple, en union libre, avec au moins un enfant et que vous n'avez pas de testament, c'est peut-être le temps d'en parler. Je sais que ça fait pas romantique, mais imagine la pire situation. Madame est enceinte ou vient d'avoir un bébé. Il est en santé, tout est beau. Monsieur va au travail puis revient en mangeant les pissenlits par la racine. C'est quoi la conséquence si t'as pas de testament? Tout va à tes héritiers. Mais saviez-vous que vos conjoints de fait ne sont pas vos héritiers légaux? Donc, si monsieur ou madame décède, les enfants deviennent héritiers. Donc, je vous donne un scénario. Vous avez acheté une maison. C'est la personne qui décède qui est soit 100% propriétaire de la maison ou 50% propriétaire de la maison. Peu importe, la part du défunt revient aux enfants. Mais ce n'est pas nécessairement le bien des enfants de maintenir des frais de maison ou de maintenir l'entretien ou l'évaluation d'une maison. Donc, le représentant légal des enfants pourrait dire à la mère ou au père survivant, tu sais quoi? Je pense que les enfants ont pas à payer à la maison parce que l'argent, moi, je leur dois à 18 ans des comptes. Puis je pense pas que ça vaut ça. Le papa aurait peut-être payé, mais là, il paiera pas. Même chose pour le hockey. Même chose pour l'école publique ou l'école privée ou les activités. Qu'est-ce qui est bon pour l'enfant et qu'est-ce qui est au nom des parents? Donc, si vous faites pas de testament, ça va être l'enfer. Deuxième sujet passionnant. Mm-hmm. T'es en union libre depuis quelques temps. Puis vous n'êtes pas encore entendu sur qui possède les actifs. C'est là, vous allez aller souper. Le gars ou la fille dit, moi, j'ai le condo, viens chez nous, paie-moi un loyer, puis ça va être correct. Il est peut-être temps de mettre carte sur table. En cas de séparation, l'actif revient à la personne qui le possède légalement. Si vous n'êtes pas marié, ça ne fait pas partie du patrimoine familial. Si vous n'avez pas d'entente légale. Donc, ce serait peut-être temps de dire, si je te paye un loyer, il faut que ce soit inférieur au loyer que je paierais ailleurs pour me permettre de dégager une marge d'épargne, pour me permettre de mettre ça dans mon CELI et mon REER. Et par conséquent, si on se sépare, je vais m'être moi aussi enrichi avec la relation. Je vais pas juste avoir payé ton épicerie, ton électricité, puis toi, tu vas avoir profité de moi, tu comprends? Je sais que c'est des beaux sujets pour la Saint-Valentin.
On est-tu rendu au dessert, là?
Hey, le dessert. Comment séparer les dépenses? Il y a trois façons. En proportion des revenus, ça, je trouve ça fatigant parce que l'impôt est fatigant. T'sais, tu peux pas faire de revenu brut parce que le revenu net n'est pas pareil. Après ça, t'as, est-ce que la personne a un régime de retraite, oui ou non? Parce que si l'autre a un régime de retraite, toi, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu diminues ton revenu du régime de retraite de ton REER pour que ce soit fair. Après ça, t'as-tu une pension alimentaire à payer? T'as-tu des besoins spécifiques? Le moitié-moitié, c'est un peu fatigant, parce qu'on va se le dire. Si tu sépares moitié-moitié, à moins d'avoir un mode de vie parfaitement égal, ça laisse place à la chicane. Et finalement, tu peux commencer à parler d'avenir et de tout mettre ensemble et de risquer ton avenir financier de façon commune et de gérer de toute façon commune l'épargne, les investissements. Mais tu vois, Paul, lors d'un souper de Saint-Valentin, il n'y en a pas de limite au sujet financier. Donc, si vous ennuyez, parlez de cash. Ça va bien aller.
C'est sûr. Puis même, tu sais, je pourrais ajouter un autre sujet. T'sais. Mettons que c'est la première Saint-Valentin de couple, tu sais, tu te ramasses. Puis là, au début de la relation, des affaires comme ça, on n'en parle pas. Puis moi, je suggère de poser la question suivante. Tu dis, écoute, mon amour, avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître tes actifs.
C'est une bonne idée, Paul, mais il y a une bonne réponse là-dedans. Il faut qu'il y ait de l'enrichissement des deux
oui,
en cas de
mais tu sais, avant d'aller plus loin, avant de s'engager, oui. Là, tu vaux combien? Après ça, on verra si ça vaut la peine de continuer.
Mais pas, il y a des façons subtiles de le demander. Regarde, par exemple, est-ce que tu as atteint ton plafond de REER pour cette année?
Salut, va te coucher.
Salut.
Il est 7h25.